avec les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission ciné des Fréquences 7, les écrans suspendus. Comme vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons un film que nous avons hâte de voir avec vous sur grand écran dès que les salles obscures seront ouvertes. Aujourd'hui, nous parlons du film américain le plus frenchy de l'année, qui s'appelle The French Dispatch de Wes Anderson. Pour en parler avec moi, j'accueille Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Mathieu.
Salut.
Alors, The French Dispatch, nous avons découvert il y a peu un thriller un peu dingue qui nous a dévoilé l'univers de Wes Anderson que nous apprécions particulièrement, même s'il y a une team plutôt Family Tenenbaum et une team Grand Budapest Hotel avec le film choral millimétré, plutôt pop et millimétré. Là, on est dans une comédie dramatique toujours écrite et réalisée par Wes Anderson qui a été tournée pendant 6 mois dans la ville française d'Angoulême qui a été rebaptisée pour l'occasion Ennui sur Blasé, et c'est un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville fictive du XXe siècle. Ça se passe dans les années 50. On retrouve donc le film choral parce qu'il y a pléthore d'acteurs et des acteurs qui ont déjà tourné avec le réalisateur, comme Bill Murray, Adrien Brody, Owen Wilson, Tilda Swinton. Et pour le côté français, Mathieu Amalric et Léa Seydoux. Mais des nouveaux aussi, comme Kate Winslet, Elisabeth Moss ou Timothée Chalamet. On va retrouver aussi beaucoup d'acteurs français, dont Lina Koudry, qui est la jeune femme qui a eu le César du meilleur espoir féminin cette année. Donc en casting 5 étoiles et Wes Anderson qui a préparé le film avec eux, les a surtout préparés en leur montrant des films 100% français, des films qui vont être sur l'époque, on va surfer entre le début de la nouvelle vague, l'avant et la nouvelle vague, puisqu'il leur a demandé de voir Les 400 coups de Truffaut, Le plaisir de Max Ophüls, mais également Quai des Orfèvres et Les Diaboliques de Clouzot, et Godard avec Vivre sa vie. Donc on imagine une intrigue relié un peu au film noir de Clouzot, au déchirement amoureux d'Ophüls et à la jeunesse rebelle de Truffaut. En tout cas, il retrouve autour de lui, au niveau du scénario, des personnes avec lesquelles il travaille très régulièrement, qui sont Jason Schwartzman, Roman Coppola et Hugo Guinness. Donc l'univers de Wes Anderson tourne autour toujours de choses, en fait de situations, on va dire, de personnages farfelus, originaux, mais émouvants et très drôles. Rien n'est laissé au hasard, en fait, dans le cinéma de Wes Anderson. On a ce côté esthétique rétro, ces couleurs pastels qui reviennent, où chaque objet est à sa place, choisi avec soin et rangé avec méthodologie. Et ce qui est marquant aussi dans le cinéma de Wes Anderson, c'est qu'il arrive énormément de choses aux personnages qui restent relativement inexpressifs. Alors peut-être que, Olivier, tu peux développer un peu, tu avais envie de développer un peu l'imaginaire, en tout cas, autour de Wes Anderson.
Oui, complètement. Et je te rejoins complètement dans ton analyse. Il faut que je confesse que je n'ai vu de Wes Anderson que la vie aquatique et The Grand Budapest Hotel, mais ça suffit, je pense, pour saisir un tout petit peu un univers. C'est un univers, et dans ce que tu dis, on le pressent déjà, où il y a un réalisme apparent, actuel, documentaire, ou historique d'ailleurs, hein, mais où tout de suite interviennent des craquelures, des fentes qui s'ouvrent pour nous faire entrer dans nos peurs, mais aussi dans nos désirs, d'une manière tellement esthétique et justement avec des visages tellement connus que la limite entre la vie et la fiction s'efface un peu pour laisser la place à un rêve étrange et pourtant d'une certaine manière crédible, qui fait que quand on sort d'un film de Wes Anderson, on sent bien qu'on sort d'une espèce de je sais pas, pas de train fantôme, mais de quelque chose un peu comme ça. Et effectivement, des acteurs comme Bill Murray ou Mathieu Amalric, qui ont montré par ailleurs avec d'autres réalisateurs ce qu'ils sont capables de faire. Je pense en particulier à Bill Murray pour Broken Flowers ou Lost in Translation ou même Coffee and Cigarette, donc le film de Sofia Coppola ou de Jim Jarmusch, quoi. On voit effectivement qu'il exploite des visages que le spectateur doit interpréter, enfin, etc. Et effectivement, je pense que c'est une esthétique de l'ambiguïté, une esthétique un petit peu onirique. Et je regardais un petit peu tout à l'heure, en me rendant compte que Grand Budapest Hotel, The Grand Budapest Hotel, avait été beaucoup inspiré par Stefan Zweig, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à La Pitié Dangereuse ou au Joueur d'échecs. Dans La Pitié Dangereuse, un officier de l'Empire austro-hongrois dans un grand salon très huppé s'avance vers une jeune fille qu'il trouve séduisante, l'invite à danser une valse, bien sûr, et il s'avère en fait que cette fille est handicapée et qu'elle ne peut évidemment pas se lever pour aller danser, et ça met une sorte de malaise étrange qui fait que ensuite le héros hésite entre la pitié et l'amour, par exemple, vous voyez, ou alors le joueur d'échecs qui a été aussi mis au cinéma, où un ancien prisonnier qui avait appris à jouer aux échecs tout seul se retrouve sur un paquebot où se trouve le champion du monde d'échecs, et il est plus ou moins forcé à jouer contre lui, et il le bat, mais il ne peut pas poursuivre la compétition parce qu'il est en train de devenir fou, parce qu'il retrouve, si vous voulez, cette espèce de schizophrénie, le terme n'est pas adapté d'un point de vue psychiatrique, mais cette espèce de schizophrénie de celui qui joue aux échecs avec lui-même. Donc on a voilà cette espèce d'ambiguïté dans le cinéma, enfin dans tous les cas dans ces deux films de, enfin dans ce film de Wes Anderson, on a des ambiguïtés qui sont peut-être plus fines, moins évidentes dans la vie aquatique, où on a une espèce de commandant Cousteau pas croyable, etc. Et je crois que ce qui peut donner, ce qui donne envie, ce qui fait la magie, hein, de véritable magie dans la vision de ces films de Wes Anderson, c'est que il nous maintient un petit peu en suspension entre deux mondes, voire plusieurs mondes. Un monde historique qu'on connaît plus ou moins, un monde actuel qu'on connaît plus ou moins, et puis un monde rêvé aux limites de la magie, de la folie, et je crois que avec ce film qui arrive là, on pouvait avoir ça. Je pense en particulier avec Owen Wilson, qu'on a vu dans Minuit à Paris, qui était aussi un film qui jouait sur l'ambiguïté entre le passé et le présent. je pense, ou Bill Murray dans Lost in Translation, où effectivement, sur le visage de Bill Murray, on n'arrive pas à lire exactement s'il est question de dépression, d'amour, et dans un milieu, voilà. Et je crois que c'est un cinéma qui globalement rend honneur au cinéma parce qu'il est créateur d'un monde, véritablement d'un imaginaire. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire pour parler de ce que j'ai ressenti avec le cinéma de Wes Anderson et pour parler de l'envie d'aller voir The French Dispatch. Mathieu, j'avais envie de revenir vers toi là, dans la mesure où effectivement c'est beaucoup la curiosité, le désir de rentrer dans un univers qui donne envie d'aller voir les films de Wes Anderson. Et toi, tu m'en parlais hors antenne, tu nous en parlais de ce désir.
Et oui, justement, c'est que chaque sortie de Wes Anderson, j'en entends parler. Chaque sortie, ça me donne vraiment envie de les voir. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais heureusement, comme je travaille dans un cinéma, j'ai pu de temps en temps, en travaillant, scruter un peu les différentes scènes, différents extraits même sur YouTube, et à chaque fois c'est tout le temps le même ressenti qui ressort, c'est l'émerveillement, c'est le côté artistique dans l'image, c'est le côté aussi très très atmosphérique, et même sans connaître l'histoire, on sait qu'on est vraiment dans un monde vraiment à part. Et moi, notamment, j'avais vu quelques extraits de L'île aux chiens, donc son dernier film en stop motion, et aussi de Moonrise Kingdom. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment la symétrie des images, la composition des plans, les décors qui sont incroyables, mais aussi bien sûr la lumière, mais tout ressemble à des tableaux, tout est millimétré. C'est ce qui m'a frappé. Et c'est vraiment c'est intriguant, ça donne envie de s'y plonger. C'est comme si on disait non, mais même si tu n'as pas vu le film, regarde ça, ça va te donner envie. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et en regardant plusieurs interviews, making of, on sent que ce réalisateur, en fait, c'est un perfectionniste. Et je le vois, peut-être je pense pas me tromper, mais c'est un passionné de la beauté du cinéma, mais la beauté aussi dans la vie. Comme disait Cathy, il prend en référence pas mal de films, que ça soit La Nouvelle Vague pour son prochain film, mais aussi il doit avoir une très grande filmographie il a dû voir beaucoup de films qui l'inspirent, et ça se voit à l'écran. Et comme dans le making of de L'île aux chiens, par exemple, quand on voit qu'ils ont fabriqué, lui et son équipe, 1000 marionnettes artisanales, que c'est un tournage photo par photo qui a tourné 2 ans, on se dit qu'il va jusqu'au bout de ses idées, et c'est ce qui me donne vraiment envie. Et cette fois, j'espère ne pas le louper, de voir The French Dispatch qui va, au vu de sa bande d'annonce, nous retourner, je pense. Ouais,
ouais, super. Ouais, c'est... Moi, j'en parlais avec Cathy Orantaine. Les films de Wes Anderson, souvent, on dit c'est génial, on n'a pas trop les mots, on vous demande pourquoi et on a juste envie de dire va voir.
C'est ça, exactement.
Il faut aller voir. Exactement. Donc là, on attend aussi de voir si le film va faire partie de la liste pressentie, qui était censée être en sélection officielle au Festival de Cannes. Puisque Thierry Frémaux a annoncé que courant juin, il l'annoncerait, il donnerait une liste de films qui étaient pressentis pour la sélection officielle et un certain regard. Donc, on imagine que The French Dispatch ou sera parmi cette liste. Et le film est prévu en sortie en France au 14 octobre. Voilà. On va vous dire aussi un petit mot sur Jean-Paul Davani. La semaine dernière, nous avions rendu un petit hommage à Michel Piccoli. Nous avions parlé des films de Claude Sauté dans lesquels il avait tourné. Donc là, cette fois, c'est Jean-Paul Davani qui nous a quittés. Et c'est une carrière, notamment de scénariste et de dialoguiste de Claude Sauté. mais aussi d'Yves Robert. Je ne sais pas si on n'a pas vu Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis. Il faut absolument le faire se rattraper. Ou encore La gifle de Pinotto. Et aussi un des films de Truffaut qui s'appelle Une belle, belle fille comme moi, dont il a écrit les chansons qui ont été mises en musique par Guy Marchand. Tu voulais parler, Olivier, de son côté, justement, parolier.
Oui, son côté polygraphe, hein, tu l'as dit, Sauté, Yves Robert, Pinotto, Truffaut, bon, quand même. Et puis Paul Naref, hein, On ira tous au paradis, Julien Clerc, Ma préférence à moi, Comme je vous aime. Et puis des sketchs, hein, pour Muriel Robin, Bedos, Jean-Claude Averty. C'est une espèce de polygraphe génial qui, dont les mots, je crois, ont accompagné, font partie, comme on dit un petit peu bêtement, de la bande originale de nos vies. Et On ira tous au paradis de Paul Naref, pour moi, c'est merveilleux. Je ne vais pas rentrer dans la théologie, mais c'est une merveille. Et il avait fini à l'Académie française, ce qui, pour une fois, je trouve, est assez intéressant pour ce que moi, je serais tenté d'appeler un polygraphe, c'est-à-dire un mec qui était capable d'écrire tout et paraît-il, évidemment, moi, je ne connais pas, mais paraît-il, toujours avec le sourire, une grande humanité, voilà.
Merci. Alors, merci Olivier, merci Mathieu. La semaine prochaine, nous parlerons du film qui a reçu l'Ours d'argent au Festival de Berlin cette année. Il s'agit de Effacer l'historique de Kervern et Belépine. Merci, à la semaine prochaine.
Merci Cathy, merci Sylvain, merci Mathieu. Merci à tous les auditeurs.
Au revoir.